Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Longtemps, la seule évocation de la gestation pour autrui a suscité crainte, réprobation, certitude de dérive. Les débats conduits en janvier et février 2013 au Parlement et qui ont permis l'ouverture de mariage aux couples de même sexe ont relancé le débat. Les cas des maternités de substitution, ou gestation pour autrui, ou comme on le disait autrefois, le cas des mères porteuses est difficile à instruire d'un point de vue moral. Si la femme, incapable d'assurer une grossesse, souhaite recourir à une gestation pour autrui, si le couple de parents, qu'on dit commanditaires, sont en parfait accord sur ce point, si la mère porteuse, surtout celle qui devra assurer la grossesse, est également d'accord. Bref, si l'on a affaire à un ensemble d'adultes consentants, surtout s'il est avéré qu'il n'y aura pas de dommages pour l'enfant ou pour la gestatrice, pourquoi s'opposer à une pratique qui peut permettre à une mère stérile, à un couple stérile de manière plus générale, d'accéder enfin à la maternité ? Mais d'un autre côté, l'idée qu'une femme puisse louer son utérus et par là son corps entier, sa vie même pendant 9 mois, suscite l'indignation, chez beaucoup en tout cas. Davantage l'idée qu'un corps de femme soit utilisé au service des souhaits de parents commoditaires en échange le plus souvent d'espèces sonnantes et trébuchantes déplaît profondément une majorité de nos concitoyens. Ces réactions sont-elles justifiées ? Y a-t-il vraiment des raisons morales qui condamnent sans appel le recours à la gestation pour autrui ? La liberté de procréer rencontre-t-elle sur ce point des limites légitimes. Merci Dominique Ménesson d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « La gestation pour autrui, l'improbable débat » paru chez Michalon en 2010. Donc c'est une question que vous connaissez bien et que vous connaissez également de près puisque vous êtes le père de deux jumelles qui ont aujourd'hui une douzaine d'années sont nées grâce à la gestation pour autrui en Californie, et les actions que vous avez conduites pour faire reconnaître leur état civil en France a fait de vous le coprésident de l'association Clara. Prenons cette question, au fond, qui me paraît préjudicielle à tout ce que nous pourrons dire lors de cet entretien. Considérez-vous que la gestation pour autrui soit un cas parmi d'autres des techniques de procréation médicalement assistées et à ce titre mérite d'être encouragée comme toutes les techniques qui permettent de remédier aujourd'hui à la stérilité d'un couple.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser puisque l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu en 2009 et la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens en 2007.
Alors, il est vrai que, au fond, avec la gestation pour autrui, on a affaire un petit peu aux mêmes techniques, et même tout à fait aux mêmes techniques pour la procréation médicalement assistée, avec tout de même plusieurs cas de figure. Il y a le cas le plus simple en matière de filiation génétique, où la mère porteuse ne fait que prêter son utérus, en quelque sorte, l'ovule et le spermatozoïde venant du couple commanditaire. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Il peut y avoir des cas plus complexes où la personne qui assure la gestation pour autrui fournit également l'ovule. Et puis il y a des cas où l'ovule et le spermatozoïde ne sont pas fournis par les parents qui souhaitent adopter l'enfant ensuite, et puis il y a tous les cas intermédiaires que l'on peut envisager. Alors, il va de soi que ce n'est pas le même sens que l'on donne à père et mère dans tous ces cas-là.
Oui, j'espère bien. D'ailleurs, je vais reprendre le mot qui me semble très juste d'Irène Théry. Je crois qu'il ne faut pas confondre un don d'engendrement qui fait qu'une personne va participer de manière très importante à un projet parental et la parenté en elle-même.
Alors pour vous, les parents, qui sont-ils ?
Ah, de manière tout à fait logique, comme depuis la nuit des temps, les parents, ce sont ceux qui s'engagent à élever et aimer l'enfant.
Certes, mais notre code civil, et puis d'ailleurs un certain nombre de déterminants qui structurent incontestablement beaucoup de représentations communes, considèrent que la grossesse crée des liens évidents entre la femme qui porte et le fœtus. Alors, lorsque on sait qui est la génitrice, enfin celle qui a porté l'enfant en tout cas, est-ce que l'accouchement et les éventuels contrats qui peuvent exister dans une gestation pour autrui peuvent interrompre ces liens ? Quel statut de parent, entre guillemets, reste-t-il à la femme qui a porté l'enfant ?
C'est assez simple dans les pays qui ont légiféré, à l'exception de l'Angleterre. Tous ces pays ont mis en place un système qui est exactement le même que pour le don de sperme en France. C'est-à-dire que si des personnes, un couple infertile, donc appelé parent d'intention, j'aime pas parent commanditaire, parce que bon, ça fait un petit peu mafia, donc si des parents d'intention s'engagent dans un processus de gestation pour autrui et se font aider par une personne, à ce moment-là, ce seront eux qui auront la responsabilité des enfants et ils ne pourront pas d'ailleurs y échapper, c'est aussi important de le dire, tandis que la femme qui a porté l'enfant n'aura pas de statut de mère et ne pourra pas le revendiquer.
Alors, on reviendra plus tard sur la force normative et puis la force de contrainte de ce type de contrat, surtout. Mais en Angleterre, en effet, la femme peut avoir un droit de remords. Elle peut souhaiter, la femme qui a porté peut souhaiter garder l'enfant jusqu'à un délai assez long.
Tout à fait, c'est la particularité de l'Angleterre. C'est pour ça qu'on qualifie la loi anglaise, qui est la première du genre, à une loi d'entrave, parce que son but était d'entraver la pratique et non pas de lui donner une reconnaissance ou de la faire fonctionner de façon éthique. Ce qui n'était pas du tout le même raisonnement que la Californie, pour ne citer aussi la Californie ou la Grèce plus près de chez nous, qui a une loi qui est très protectrice. La difficulté qu'il y aurait à rester dans un système de type anglais, c'est qu'on est dans un système d'indécision où les choses ne sont pas obligatoirement claires. Et pour avoir aussi entendu beaucoup de gestatrices anglaises, il y a quelque chose qui les choque, c'est qu'on les oblige à devenir les mères de ces enfants dont elles ne s'estiment pas les mères. Donc on les oblige, c'est ce qu'elles disent, on les oblige à être de mauvaises mères, puisqu'on les oblige à abandonner des enfants.
Oui, mais ayant porté, peuvent-elles être autre chose que mère ? La loi anglaise est la plus ancienne, ça remonte à une vingtaine d'années.
C'est ça, 1985.
De la gestation pour autrui à une époque où peu en parler. Mais il reste, quand on ouvre le code civil français, qu'est-ce qu'on lit ? La mère est celle qui accouche de l'enfant, à l'exception de la mère qui accouche sous X. Alors comment fait-on pour concilier tout ça ?
Et à l'exception de la mère qui adopte ? Moi, ce que je remarque dans le code civil français, c'est que ce code civil à une des dispositions très intéressantes pour l'intérêt de l'enfant. Par exemple, vous pouvez être père d'un enfant, reconnaître un enfant pour lequel vous n'êtes pas l'ascendant génétique. Et selon les statistiques, il y a 3% d'enfants qui sont dans ce cas-là. Donc le code civil qui, pour protéger l'enfant, peut faire des filiations qui sont appelées fictives d'un point de vue biologique, me semble aller tout à fait dans ce concept qui est avant tout de sécuriser la filiation des enfants.
Alors, revenons maintenant à la question de la mère qui assure la gestation, de la femme qui assure la gestation pour autrui. Et peut-on nier que le fait de porter un enfant est une forme de transmission ? D'abord, il y a la transmission d'un matériel biologique. Si vous voulez, là, on sait maintenant, on connaît beaucoup mieux les échanges qui ont lieu entre la femme qui porte le placenta et le fœtus pendant la grossesse. On ne pense plus du tout aujourd'hui que l'utérus est un habitacle neutre dans lequel l'enfant grandit. Je ne parle même pas de l'expérience psychologique et la grossesse et l'expérience physique. 9 mois, c'est long, très important dans la vie d'une femme et qui touche à la plus profonde intimité d'un corps de femme. Alors, peut-on véritablement imaginer qu'une femme fasse tout cela et s'engage dans ce genre de choses, alors qu'elle n'y est pas obligée, comme c'était le cas autrefois quand une femme se retrouvait enceinte sans l'avoir voulu, qu'une femme décide volontairement tout cela, précisément pour ne pas avoir un enfant ensuite ?
Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'expériences maintenant avec les études anthropologiques qui ont interrogé ces femmes, parce que par évidence, il y a des échanges, il se passe des transferts d'émotions, ça c'est démontré, nous l'avons vécu nous-mêmes, donc nous le savons et nous ne le nions pas. Maintenant, il faut juste revenir sur comment on qualifie ces échanges. On comprend bien que ces échanges peuvent être des émotions, même des échanges affectifs, bien sûr, mais pour autant, faut-il les qualifier comme des liens maternels ? On peut faire le parallèle avec, vous savez, les enfants qui sont placés chez des assistantes maternelles et qui s'attachent à cet assistant et vice-versa. Maintenant, on peut parfaitement vivre avec ces liens, c'est plutôt un enrichissement. Mais bien sûr, à condition que ces liens puissent s'exprimer par la suite dans la vie.
Et ça a été le cas pour vous, par exemple. Vous avez gardé des liens avec la femme qui a porté vos jumelles.
Tout à fait. Mais c'est le cas de la quasi-totalité des gens de notre association. Et ce comportement est extrêmement encouragé dans la culture américaine, canadienne ou australienne, pour parler des pionniers de la GPA. Au contraire des margoulins qui agissent dans des pays où il n'y a pas de cadre légal.
Alors, un argument qui est classique, évoqué contre la gestation pour autrui, et celui de l'instrumentalisation du corps, car on se sert d'un corps, et un corps, ce n'est pas simplement un organe, c'est aussi une psychologie, toute une orientation existentielle presque. On s'en sert pour satisfaire des besoins d'autres personnes, surtout lorsqu'il y a à la clé une rémunération qui laisse penser que c'est seulement pressé par des besoins matériels ou par le besoin d'argent que l'on accepte de faire ce genre de choses, qui paraît, aux yeux de certains, encore une fois, être une véritable forme de dégradation de la personne et de privation de dignité. Niez-vous cette dimension d'instrumentalisation ou la qualifiez-vous autrement ?
Une fois de plus, tout dépend de quelle est la motivation de départ de ces femmes. Il est évident que si ces femmes sont motivées juste par une rétribution financière, on court à la catastrophe. Par contre, si ces femmes ont un désir légitime de venir en aide à un couple et de faire en gros une bonne action par qui, à leurs yeux, les valorisera, on n'est pas du tout dans ce schéma d'instrumentalisation. Et j'aimerais ajouter un autre point. Moi, je suis souvent extrêmement choqué quand j'entends parler de location d'utérus. Parce qu'il faut être extrêmement clair, ces femmes ne nous louent pas leur utérus. D'ailleurs, leur utérus, pour parler crûment, ne nous sert à rien. En fait, ces femmes, ce sont elles qui utilisent leur corps pour mener bien un travail, un projet collectif qui est de faire venir au monde un enfant.
Il reste que s'il n'y avait pas ce lien financier, il n'y aurait aucune volontaire. Je ne parle pas de celles qui ont un lien particulier avec la personne, hein, ou avec la femme, ou avec le couple qui souffre de cette stérilité qui rend la femme incapable de porter un enfant. Avez-vous entendu parler de cas ou avez-vous répertorié des cas dans votre association de femmes qui n'avaient aucun lien d'aucun type avec un couple stérile et qui proposait ses services sans aucune rémunération ?
Oui, c'est même l'immense majorité. Vous savez, je crois que c'est le problème de fond pour comprendre de la GPA, c'est d'essayer de comprendre ce que peut être l'altruisme. Bien sûr, je ne nie absolument pas que les agences aux États-Unis refusent de nombreuses candidates qui, au départ, viennent en pensant que, grâce à la gestation pour autrui, elles pourraient gagner de l'argent. Ce qui est un petit peu ridicule, parce que la gestation pour autrui, vu le temps passé et la faible compensation des frais liés à l'état de grossesse, c'est assez ridicule. Ça ne représente même pas $0,5 de l'heure. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on peut gagner de l'argent. Donc, effectivement, la difficulté qu'on a à intuiter la gestation pour autrui, c'est la question même de l'altruisme. Parce que la définition de l'altruisme, c'est faire du bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est la même chose, la difficulté qu'on a à comprendre pourquoi des gens font le pompier ou le secouriste bénévole, ou des personnes vont dans des ONG à l'autre bout de la planète soigner de parfaits inconnus. La difficulté majeure, elle est là.
Oui, mais la différence quand même, c'est qu'il s'agit pour l'engagement dans une ONG ou l'engagement dans les pompiers bénévoles d'une activité qui vient en quelque sorte remplir son orientation de vie, son récit de vie. Ce n'est pas une invasion, une possession de son propre corps. Une grossesse, c'est une expérience très intime pour une femme.
Oui, en même temps.
Là, il semble qu'un seuil est franchi.
En même temps, pour certaines femmes, et notamment, c'est un critère de leur motivation. La grossesse est un moment très, très heureux qu'elles souhaitent renouveler, qu'elles ne peuvent plus renouveler parce qu'elles ont déjà complété leur famille. C'était le cas d'ailleurs de Mary, la femme qui a porté nos enfants. En plus, dans toute la période qui précède cette grossesse, c'est extrêmement contraignant, la gestation pour autrui, le protocole. Mais vous savez, quelqu'un qui va à l'autre bout de la planète, dans un pays en guerre, c'est aussi quelque chose de très intrusif dans sa vie privée.
Donc c'est par goût de porter des enfants et de par pur altruisme, selon vous, qu'il y a des candidates à la gestation pour autrui. Mais alors comment expliquer que beaucoup de gens aient du mal à le croire et pensent qu'il y a là la base de l'organisation d'un effroyable système d'instrumentalisation de l'être humain, en particulier du corps de la femme, en particulier des femmes les plus vulnérables, les plus démunies matériellement?
C'est évident. Moi, ce que je vous parle, c'est de l'expérience étudiée dans des pays où il y a un cadre légal assez strict et éthique, donc qui permet justement d'éviter ces dérives. Et en aucun cas, ça ne représente la réalité de, par exemple, de pays comme l'Inde, où justement, ce sont, du fait de l'absence de cadre, des femmes qui vont pouvoir, par le biais d'une grossesse, gagner l'équivalent de 10 ans de salaire. Et donc, à l'évidence, leur motivation, leur consentement libre et éclairé n'est pas du tout le même de ce que je vous ai parlé. Donc, je peux qu'abonder dans votre sens que les motivations troubles et préjudiciables existent à partir du moment où vous n'avez pas un cadre strict.
Alors justement, revenons sur les principes de cet encadrement juridique. Parce qu'après tout, on accepterait peut-être, en tout cas certains accepteraient plus volontiers qu'une sœur ou une amie, pour remédier au malheur de sa sœur ou de son amie stérile, décide de porter pour elle un enfant. Donc là, j'imagine que l'acceptabilité morale paraîtrait plus grande pour ce genre de cas, mais on les verrait comme des cas qui sont véritablement des cas d'altruisme vraisemblable, c'est-à-dire fondés sur une relation extrêmement privilégiée à un être humain dont le malheur afflige profondément la personne qui est prête à vivre cette expérience pour remédier au malheur de son ami ou de sa sœur. Mais évidemment, dans des cas comme cela, la rémunération est absolument hors de question. Mais cet exemple laisse penser que ce n'est pas tellement le fait de porter un enfant pour autrui qui suscite la réprobation. C'est surtout le fait de le porter à partir d'un contexte qui est un contexte où l'argent ne peut pas ne pas être présent, parce que il est vrai qu'on a du mal à croire à cet altruisme complètement, complètement désintéressé, détaché de tout lien affectif ou de tout lien personnel. Alors revenons à la question du dédommagement commercial, parce que la présence de l'argent dans de très nombreuses activités humaines, nous savons l'aseptiser. C'est-à-dire, selon que l'argent donné en rétribution est présenté justement comme une rétribution ou comme un dédommagement, c'est plus ou moins acceptable. Si la mère porteuse assure la gestation pour autrui et dédommagée de ses désagréments au lieu d'être rémunérée, on considère que d'une certaine façon, une certaine forme de juste dû est honorée sans qu'il s'agisse d'un paiement au sens propre. Que pensez-vous de ces distinctions? Elles vous paraissent fondées ou ce ne sont que des mots selon vous?
Non, elle est tout à fait fondée, ce qui permet tout à fait de faire une frontière entre des systèmes qui respectent la dignité des personnes et des systèmes qui ne la respectent pas. Il y a deux critères. Déjà, le premier critère sur c'est est-ce que ça doit être un moyen de subsistance ou pas. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à des sommes qui s'approchent même de loin au salaire minimum, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a un risque immense que la motivation soit justement de trouver un moyen de subsistance vis-à-vis d'un critère de précarité. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit un demi-dollar, ça correspond à ça, un demi-dollar de l'heure. Le salaire mini en Californie, c'est 9 dollars. Donc ça permet de faire une immense distinction. Deuxièmement, dès qu'on parle d'éthique, on va parler de consentement libre éclairé. Le éclairé, ça suppose d'être correctement informé et de manière indépendante, et le libre, c'est de ne pas être influencé par l'argent. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas, dans un parcours de gestation pour autrui, verser le moindre centime avant l'acte médical du transfert d'embryon. Ça veut dire que la personne avec vous, pendant 6 mois, elle va agir, passer de nombreux rendez-vous, tout ça, uniquement dans cette perspective de ce projet commun. Et sa décision d'accepter le transfert d'embryon ne pourra pas être motivée par l'argent. À l'inverse, vous comprenez très aisément qu'un pays où vous avez la même personne qui donne les informations et qui fait le médical, qui ne fait pas la séparation des pouvoirs, qui permet de verser de l'argent à tout moment, et des sommes qui sont, puisqu'on l'entend en Inde, qui représentent 10 ans de salaire, on n'est plus du tout dans le consentement libre et clair. Il n'est pas libre. Quand vous dépendez de l'argent, ce n'est pas un consentement libre. Donc je pense qu'on sait très très bien faire la différence. On pourra rajouter un troisième critère, c'était un philosophe dans un débat qui avait fait cette remarque. Mais si la peur est tellement que des femmes pauvres agissent que pour l'argent, mais alors il suffit de n'autoriser dans ce genre de parcours que des femmes qui, à l'aide d'une déclaration d'impôt, montrent qu'elles ont des revenus suffisants.
Eh bien voilà, ce serait une disposition en effet qu'il faudrait essayer de faire introduire. Seules des femmes riches auront le droit d'assurer la gestation pour autrui, comme ça les scrupules et les craintes d'exploitation seront levées. Et puis aussi la réalité, le danger réel d'une exploitation, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'elle existe dans des pays du monde où de telles régulations n'existent pas. Dernier point à aborder avant la fin de cet entretien, quelle valeur morale y a-t-il, et quelle valeur juridique surtout, pour ces contrats entre mères porteuses et parents d'intention. Peut-on véritablement imaginer qu'une mère, dans le droit français par exemple, ce serait vraiment remettre en cause toute l'architecture normative du code civil, une femme ayant porté un enfant, même si on lui refuse le titre de mère pendant cette grossesse, veuille garder l'enfant qu'elle a porté et on le lui refuse, on lui enlève parce qu'elle a signé un contrat avec des parents d'intention. Pour en arriver à cela, en tout cas le droit français, il faudrait remettre en cause un certain nombre de choses.
Oui, mais la question n'a pas lieu de se poser, parce que vous savez, l'histoire du contrat de gestation pour autrui, c'est un fantasme récurrent. Il faut savoir qu'en fait, c'est exactement comme dans le don d'organes entre personnes vivantes, l'architecture légale dans la Californie ou la Grèce, dans tous ces pays-là, ce n'est pas un contrat. Parce que vous ne pouvez pas faire un contrat en droit médical. Donc ce n'est pas un contrat, c'est un accord. Et ça veut dire que cet accord, à tout moment, vous pouvez en sortir. C'est-à-dire que de même que la personne qui va donner un bout de son foie pour quelqu'un d'autre, elle peut, le jour même de l'opération, elle peut tout annuler. Dans la gestation pour autrui, c'est exactement la même chose. À tout moment, cette femme, elle peut refuser le transfert d'embryon, elle peut avorter, selon les dispositions légales de l'avortement, elle peut faire tout ça. La question, en fait, de la filiation et de qui va être responsable de l'enfant, elle n'a jamais été traitée par les conventions de gestation pour autrui. Elles sont traitées par la loi et dans l'intérêt de l'enfant. Parce que, en fait, la configuration où une femme voudrait, parce qu'elle a porté l'enfant, se sera attachée à l'enfant, en fait, statistiquement parlant, elle n'est jamais arrivée, quasiment. Le problème qui arrive, plutôt, c'est dans l'autre sens. C'est les parents d'intention qui se disputent, qui se séparent et qui, face à une configuration, par exemple quand il y a des jumeaux, voudraient fuir leur responsabilité. Et là, si la loi n'a pas prévu la convention de gestation pour autrui qui n'a que la valeur du papier, ne résout pas le problème. C'est bien pour ça qu'il faut une loi pour fixer dès le départ les responsabilités de chacun en matière de filiation.
Ou ce qu'il en est si l'enfant est handicapé ou d'autres circonstances de ce type qui pourraient le rendre moins désirable aux yeux des parents d'intention. Cela dit, si on poursuit dans la suggestion qui a été faite tout à l'heure, si ce ne sont que des femmes riches qui ont le droit d'assurer la gestation pour autrui, je pense que les cas où elles voudront garder l'enfant seront quand même beaucoup plus nombreux, me semble-t-il. Bon, enfin, c'est peut-être une supposition que je fais sans aucun fondement. Mais peut-on véritablement demander à la loi d'intervenir sur ce genre de questions? Parce que la loi, à ce moment-là, devrait présenter, en tout cas si on regarde le Code civil français, un tout autre lien de légitimation de la filiation. C'est-à-dire la filiation deviendrait là, pour le coup, quelque chose de complètement dépendant uniquement de la volonté des êtres humains, de reconnaître comme enfant, indépendamment de cette relation tout à fait particulière qui a été pour l'instant... même si ce n'était pas la seule, vous l'avez rappelé tout de suite, puisque l'adoption permet d'artificialiser la relation. Mais enfin, la mère et la femme qui accouche, c'est la mère. Donc ça, il n'en resterait plus rien, d'une certaine façon, de ça.
Je ne pense pas. En fait, si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a une certaine continuité dans comment on établit la filiation et le but que le législateur cherche à atteindre. C'est assez simple. le législateur, il a besoin qu'un enfant qui naît soit pris en charge et que les choses soient claires pour tout le monde. Donc pendant longtemps, c'était relativement facile parce que le fait biologique semblait évident pour tout le monde, bien qu'il y avait des questions, puisqu'on disait il faut un père, une mère et Dieu pour tout ça. On a vu qu'au fil du temps, il y avait de nombreux arrangements qui étaient faits. Dès le premier code civil, le code d'Hammurabi, quand même, il y a pas loin de 3000 ans, il y avait déjà des dispositions, non pas pour la gestation pour autrui, mais son équivalent de l'époque, qui était de la maternité pour autrui. Donc aujourd'hui, ces dispositions, on les trouve dans le fait pour un homme de reconnaître un enfant dont il n'est pas le géniteur. On connaît aussi ces dispositions dans le cadre du don de sperme, puisqu'on établit quand même une filiation qui, d'un point de vue biologique, est fictif et qui n'est pas sur la volonté. Parce que je pense que baser une filiation sur la volonté, on va faire peur aux législateurs et aux Français, parce qu'on imagine alors là que si la volonté disparaissait, la filiation disparaîtrait aussi. Alors que non, une filiation, c'est quelque chose d'irréfragable. Donc je pense qu'il faut le faire beaucoup plus sur l'engagement, qui est quelque chose qui est historique.
Mais c'est un peu la même chose que la volonté, l'engagement, non ?
Non, parce qu'une fois que vous vous êtes engagé, vous ne pouvez pas revenir, tandis que la volonté, vous pouvez toujours dire...
Quand je parle de volonté, c'est l'engagement, c'est-à-dire la capacité des êtres humains à se lier par des conventions qui s'imposent à eux-mêmes et à leurs humeurs et à leurs désirs passagers. Mais enfin, donc l'expression d'abandon sur ordonnance est très employée à propos de la gestation pour autrui. La trouvez-vous fondée ? Parce qu'après tout, il s'agit de porter un enfant avec pour seul projet de l'abandonner. Certains le voient sous cet angle, en tout cas.
J'ai lu ce livre et ce qui est frappant, c'est la méconnaissance de la gestation pour autrui que dégage ce livre. Parce qu'en fait, c'est comme faire, vous savez, la scène originelle, la relation sexuelle des parents qui fait venir au monde l'enfant. Et là, la scène originelle serait, dans le cas de la gestation pour autrui, serait transposée à cette pauvre femme qui lâche cet enfant. Alors que la scène originelle dans la gestation pour autrui, elle est quand, justement, un couple infertile et une femme décident ensemble de faire venir au monde un enfant. Et donc, on ne peut pas parler d'abandon parce qu'il y a toute cette période qui existe avant, il y a bien une continuité du projet parental. L'enfant, il n'est pas abandonné. La définition, de toute façon, de l'abandon, c'est quand c'est un enfant dont le père et la mère n'ont pas souhaité faire vie commune. Donc, pour moi, le mot est totalement inapproprié, puisqu'il y a, quand même une continuité du projet parental. On pourrait juste critiquer les configurations où les parents ne continuent pas la transmission, la continuité du lien entre la gestatrice qui justement les a aidés et cet enfant et qu'ils suppriment cette continuité.
Bon, merci Dominique Messon d'avoir restitué de cette façon la complexité des situations et puis surtout de l'histoire. En effet, il ne s'agit pas que d'un acte, mais il s'agit d'engagement, de construction commune, de projets qui se font avec plus de partenaires que c'est le cas dans les couples qui peuvent naturellement procréer. Et cela vaut sans doute aussi pour les couples de même sexe dans certaines conditions. Merci en tout cas. Merci à Brigitte Bouvier qui a réalisé cette émission. Merci à Laure Jung-Lancré qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. What a drag it is getting old. Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. N'oubliez pas tout de suite Marie Richeux pour Pas la peine d'écrier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous. Tomorrow.